Charles-Ferdinand Ramu, Nouvelle, Amour. Dans le moment où une grande étoile rouge, dont on ne sait pas le nom, dont on ne sait même pas si c'est une étoile ou une planète, paraît au-dessus du bois, parmi une poussière d'astres à peine visible, dans le ciel vert du crépuscule, eux, c'est une lumière à eux qu'ils allument. Eux, c'est une lumière à eux qu'ils s'inventent, blanchâtre, pâle, puis de plus en plus vive, qui fait un carré qui se voit de loin, de plus en plus loin sur l'autre versant du vallon. La fenêtre de la cuisine. Les champs deviennent déserts. Eux se rassemblent dans la cuisine. Ils arrivent les uns après les autres. Le père, la fille, le fils, le domestique. On entend le bruit qu'ils font sur le pavé devant la maison. Ils entrent les uns après les autres. Ils ne disent rien. Ils se laissent tomber les uns après les autres sur les bancs sans dossier qui sont rangés de chaque côté de la table et qu'ils tirent à eux, faisant gémir les pieds de bois sur le carreau rouge. Et ainsi, les vents deviennent obliques à l'un de leurs bouts où ils prennent place. Puis, les rapprochant de la table, ils font qu'ils y redeviennent parallèles. Alors ils n'ont plus qu'à manger. Alors la maîtresse de maison apporte, la tenant à deux mains par ses anses, la grande soupière d'étain pleine, sans couvercle, d'où une épaisse vapeur s'élève vers l'ampoule qui est au-dessus de nous, car c'est électrique chez nous. La disposant en face du maître, après quoi, elle vient prendre place à côté de lui. Il avait pris l'habitude de venir s'installer l'hiver, après le souper, dans l'étable. Il y avait bien trop de monde dans la cuisine pour qu'on pût y lire tranquille. Les assiettes en s'entrechoquant dans le baquet faisaient du bruit. L'homme grognonnait des choses. Alors, lui, il mettait son livre sous son bras et gagnait la porte, sans même toujours dire bonsoir. Il lui fallait se battre contre le vent, ou bien baisser la tête sous la pluie, ou encore être dans la neige jusqu'à mi-jambe. Seulement, le trajet n'était pas long qui le menait à cette autre porte, étroite, bordée d'une tresse de paille, qu'il n'y avait qu'à pousser pour être tout aussitôt dans une grande douceur d'air qui avait un goût sucré. Le vent sifflait derrière le battant retombé. Le froid se tenait derrière cette mince épaisseur de planche. Mais ici règne une bonne tiédeur, avec un peu de brume autour des choses, et de la nuit tout plein dans les angles et la profondeur, et juste ce qu'il lui fallait de lumière à lui, à cause d'un falot de tempête, dont le verre bombé, cerclé de fer, pendait à un clou au-dessus de sa tête. Lui, couché sur un tas de paille fraîche qu'il y avait dans un coin, et on est bien. Quelque chose remuait dans l'ombre. Le souffle des bêtes était doux. 8 vaches, dont on ne distinguait nettement le manteau que de celle qui était à côté de lui, blanc, parsemé de larges taches rouges. Et celle qui venait ensuite n'était plus qu'une succession confuse d'échines et de croupes que leurs mouvements seuls détachaient parfois de la nuit. Puis, elle s'y reconfondait. Lui, sous son falot tempête, lui, étendu sur la paille dont il se recouvrait les jambes, tandis qu'il s'était fait d'une brassée de cette même paille pliée en deux, une manière d'oreiller. Une bête va en arrière, puis de nouveau va en avant. C'est qu'elle est attachée. Ici, c'est une bonne soupe aux légumes, une de ces bonnes soupes de campagne, longuement mitonnées des heures durant sur un feu de bois, et dont les divers éléments, dissociés par la chaleur, ont eu le temps de se compénétrer, produisant ce velours agréable à la langue et ce fumet qui flatte les narines. C'est une maison où on a de quoi. Une maison dont le jardin fournit de tout. Une maison où on engraisse quatre cochons, dont on tue deux chaque année, de sorte qu'on y est, du moins, bien nourri. C'est ce que le petit domestique pense. Il s'appelle Victor. Il est assis pour le moment au bas bout de la table. Il a 21 ans. Il est plein de santé. Il a passé un gilet sans manches sur sa chemise à cause que les soirées commencent à être fraîches. Mais la chemise, largement ouverte dans l'échancrure de son gilet, laisse voir son cou qui est fort, brun et fort. Et ses manches retroussées jusqu'au-dessus du coude découvrent des bras plus bruns encore et musclés, ayant un front bas sous des cheveux noirs à petites boucles. Il penche en avant sur sa soupe, comme font tous les autres, d'un même mouvement. Silence, car le temps de manger est venu. Silence, c'est l'appétit qui parle, avec un bruit de cuillère et de bouche qui fait qu'on n'a pas besoin de rien dire, et que, même si on en avait besoin, on ne pourrait pas. C'est un repas du soir comme tous les repas. Ils sont six, comme toujours. Parce qu'il y a encore une petite volontaire qui est venue des Allemagnes pour apprendre le français. Mais c'est à peine si elle compte. Et lui, son assiette est vide. Il l'emplit une nouvelle fois. C'est une maison, du moins, où on ne vous pleure pas la nourriture. Il n'a pas fini sa soupe que la petite volontaire apporte une grande platée de choux et de pommes de terre, avec de l'abajoue de porc qui est un morceau délicat, rose et blanc, dont la partie grasse est dessous et la couenne brune dessus, et se voit, luisante de graisse, avec quelques longs poils dressés. Le maître l'a partagée en tranches, de belles larges tranches qui fument dans les assiettes. On ne peut pas se plaindre. Ils mangent, ils ont à boire de la piquette. La piquette se fait avec du marc, de raisin ou de pomme, des raisins secs et un peu d'eau. On met à fermenter le tout, ce qui donne un goût plaisant. Une jolie couleur jaune clair est dans les verres. Alors, on n'a plus qu'à lever le coude, ce qu'ils font tous, tour à tour. Et, comme la première fin est passée, la conversation s'engage. C'est le maître qui parle du travail qu'il y aura à faire demain et comment il sera réparti. Victor ira faucher la dernière herbe. Il y aura encore les pommes de terre à rentrer. C'est l'automne, le début de l'automne, le temps des brouillards matinaux. Et quand on sort, on est dans le coton. À peine si on voit 2 mètres devant soi et au-dessus de soi garde avantage ou des corbeaux crient, indicateurs quand même, de l'espace et du vide qu'il y a. Tu as entendu, Victor? Victor a entendu, il dit que oui. Toi, Julien, tu attelles la brune. Julien, c'est le fils du maître, et la brune, c'est la jument. Entendu, dit Julien. Ainsi, tout est réglé. Outre les ouvrages ordinaires qui sont de traire, de porter le lait, de soigner les bêtes, mais ils se font chaque jour à la même heure et n'ont pas besoin d'être mentionnés. On mange, on est à la fin du repas, la soirée s'avance. Alors Victor s'est dit que c'est le dernier moment. Quand même il n'ose pas toujours et quelquefois il sort sans avoir même levé la tête. Il lève la tête, il sent qu'il change de couleur. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelqu'un pour le remarquer? Il change de couleur une première fois. Il change de couleur une seconde fois. Il devient rouge, il devient pâle. Il a de la braise sous la peau des cuisses. De l'eau glacée lui coule entre les omoplates. Il l'a regardée. Est-ce qu'elle a seulement fait attention à lui? Il ne semble pas. Elle parle avec sa mère. Elle a fini de manger. Elle ne le regarde pas. Il la regarde vite encore une fois. Blonde, blonde et rose. C'est comme ça qu'il aime les filles, et rondes, et c'est comme ça qu'il les aime, mon Dieu. Il ne lui a même jamais parlé. Il lui dit bonjour quand il la rencontre, à peine si elle lui répond. Mon Dieu, dire qu'on voudrait tellement être un petit moment avec elle et qu'on ne peut pas. Est-ce juste? Il baisse la tête. Son assiette est vide. Son verre est vide. Qu'est-ce qu'il va faire? La volontaire s'est mise à desservir la table. Julien se lève. Son père lui a dit « Où vas-tu ?» à la répétition de chant. Elles reviennent bien souvent, ces répétitions de chant. Tous les mercredis, Julien prend son chapeau et remet sa veste. Lui, est-ce qu'il va rester où il est? Il fait chaud. Il fait une bonne douce lumière. Et elle est là. Mais c'est justement. Plus on est près l'un de l'autre, plus aussi on sent la séparation. Alors c'est le moment où Victor se décide. Il empoigne son chapeau qu'il a jeté sous sa chaise. Il se lève. « Tu t'en vas aussi ?» dit le maître qui fume un cigare. « Où vas-tu ? » « Je vais me coucher. » « Tu as bien raison. » Elle n'a rien dit. Elle n'a pas levé la tête. Il sort, il longe le corridor. Il ouvre la porte de la maison qui lui vient contre. Elle s'ouvre toute seule. On n'a besoin que de la retenir. C'est la bise. Elle vient du nord. Elle vient contre vous. Elle vous repousse en arrière. Il faut qu'on fasse contrepoids en avant, tandis qu'il referme difficilement le panneau de bois sous une grande quantité d'étoiles qui bougent dans le noir toutes ensemble, comme des cailloux au fond d'un ruisseau. Il se tourne de côté. Il est repoussé de côté. On y voit à peine. Heureusement qu'il connaît la forme de chaque pavé par cœur, et ceux qui font trou et ceux qui dépassent, allant dans cette cour de ferme le long du mur de la maison. Il passe devant la haute porte de la grange. Puis, au lieu de gagner l'escalier de bois qui mène à sa chambre, il s'arrête devant une autre porte qui est étroite, qui est basse et bordée sur tout son pourtour d'une épaisse tresse de paille soigneusement clouée qui empêche le froid d'entrer. Il tourne brusquement la poignée de fer forgé. Alors on est dans une autre saison. Il a refermé la porte derrière lui. On est dans une autre saison. C'est comme si on revenait en arrière dans l'année jusqu'à une chaude journée d'août avant l'orage, avec une senteur profonde qui vous éclate dans la tête, acide et sucrée à la fois, qui se respire avec le nez, qui est un goût dans votre bouche, et une grande nuit qu'on touche, est sous vos mains, autour de vous, devant, dessus, comme un entassement de suie, où il faut qu'on s'enfonce et qu'on se perce un trou, comme la taupe dans la terre. Il frotte une allumette. Il allume le falot tempête que la flamme lui montre, suspendu devant lui à un pilier de bois. C'est l'étable, 8 vaches et 2 chevaux. Et sous le falot, une place vide, où une gerbe de paille fraîche semble l'attendre. Il attend en effet, parce qu'il en a lui-même dénoué la ceinture, et elle lui offre sa forme creuse, où il n'a qu'à se laisser tomber. C'est un bon endroit pour dormir, c'est un bon endroit pour penser. Le falot éclaire faiblement le haut d'une rangée de dos alignés, dont l'un ou l'autre, par place, manque comme dans un piano dont les touches sont enfoncées, et des croupes dont l'une ou l'autre est affaissée de côté dans la litière. On entend le bruit des chaînes, on entend un bruit de râpe, c'est les bêtes qui ruminent. On entend quelque chose de mou qui s'écrase. On entend tout à coup un grand bruit de ruissellement, et alors des souffles doux, puis plus rien, dans l'air épais que toutes ces respirations lentes. Puis la jument s'agite, Puis la jument se tient tranquille. Et, à côté de lui, il y a un petit veau qui vient seulement de naître et qu'on a séparé de sa mère et séparé de lui par une planche mise de champ par-dessus laquelle il passe de temps en temps la tête. Ensuite, il tombe de côté, n'étant pas encore solide sur ses jambes. Lui s'installe. Il dit au veau, fous-moi la paix. Il s'est fait un creux dans la paille. Il a élargi dans la paille la place creuse qui est là, comme tout exprès pour le recevoir. Il tire de sa poche une brochure à couverture rouge et noire qui s'appelle Sacrifier. Il a mis un bras sous sa tête. Il tend la page à la lumière, mais c'est moi le sacrifié, comme il se dit. Il voit qu'il ne peut pas lire. Il est trop distrait en dedans. Il ne voit pas bien les lettres. Il voit quand elle parle, il voit quand elle rit. Il voit cette dent plus pointue que les autres qu'elle a sur le côté de la bouche et qui doit être cassée. Seulement, je ne l'ai jamais su. Est-ce juste? Il se déplace sur la paille. Il est mal. Il fait trop chaud. Ça sent mauvais. Est-ce que c'est juste tout ça? Ces bêtes qui font leurs besoins. Et elle? Où est-ce qu'elle est seulement à cette heure? Alors, il plisse la peau de son front. Il fait un grand effort entre ses yeux pour l'imaginer. Ô charmante, te voilà. Si je pouvais seulement te parler. Je te parle, mais c'est au-dedans de moi. Je te dis les mots que j'ai appris, les mots qu'on lit sur les cartes postales. Et il y a dessus une poudre collée qui fait qu'il brille dans la nuit. Ô charmante, c'est comme ça que je te parlerais avec bruit, à l'oreille, si je pouvais seulement te parler. Mais les seuls mots que je peux te dire avortent dans ma bouche et ne franchissent pas la barrière des lèvres. C'est des mots du silence. Est-ce qu'ils comptent seulement? Je suis dans l'écurie. C'est un discours muet que je t'adresse sur ma paille. Est-ce juste? Si on pouvait seulement se voir, et si seulement une fois se donner rendez-vous. Il la voit. Elle est là. Je t'aurais dit, dans le petit bois aux essert, là où le ruisseau fait sa cascade. Elle serait couchée à côté de moi. Elle a une robe d'été. Il y a tout juste place dans le creux de sa hanche pour le bombement de la mienne. On voit son cou. On voit le petit enfoncement qui est dans le bas du cou, là où il y a des tendons qui soulèvent la peau. On voit sur ses bras un léger duvet qui est comme la vapeur blonde qu'il y a sur les chaumes quand le soleil brille après qu'il a plu. Approche-toi seulement de moi. C'est permis. C'est pas défendu puisqu'on peut sortir ensemble. On est bien. On est dans la pervenche qui est un épais tapis vert foncé, où on dirait que des gouttes de ciel sont tombées. Je lui prends la main. Je caresse avec le pouce la peau du poignet qui est douce. Et puis non, parce que c'est faux. Il se retourne sur sa paille. Mensonge. Ce n'est pas elle, c'est une invention. Elle est là, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans l'air, elle n'est que dans ma tête. Où, se dit-il, où est-elle la vraie? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Pense-t-elle seulement à moi? Alors, reboutonnant son gilet et passant la main dans ses cheveux pour en faire tomber les débris de paille, il se lève. Il y a deux portes à l'écurie. L'une ouvre sur le devant de la maison, l'autre sur un talus planté d'arbres. Il passe derrière les bêtes attachées au râtelier tout du long. L'une d'elles, qui est couchée, il la fait se lever d'un grand coup de pied dans la croupe. Debout. Et la vieille jument lui barre à demi le passage. Il la prend par le mors et la secoue violemment. Arrière, tu entends? Laisse-moi passer. Il a réveillé l'assistance. Les bêtes, une à une, sortent du sommeil et meuglent. Elles s'agitent lourdement. Lui ouvre la porte de derrière et se glisse jusqu'à la fenêtre de la cuisine, dont les contrevents sont à demi tirés, mais assujettis à leurs tringles, laisse cependant entre eux un vide par où voir à l'intérieur sans être vu. Lui est dans la nuit supprimé par elle. Ceux qui sont dans la cuisine sous la lampe, au contraire, la lumière les reconstruit en plein relief. Elle est là. Le maître lit son journal. La patronne va et vient, un torchon à la main. Il applique son visage au tranchant des panneaux de bois. Elle est là, elle. Elle écrit. Il regarde. Elle a un porte-plume de bois rouge qu'elle trempe dans une bouteille d'encre qui a encore son étiquette, comme si elle venait de sortir de chez le marchand. Son papier est devant elle. Elle écrit une phrase, puis lève la tête et réfléchit, mâchonnant le bout de son porte-plume. Et il voit, mais de loin, sa peau, le brillant de ses cheveux, son coude rose. Mon Dieu, est-ce que c'est juste? Ah mon Dieu, pense-t-il, pourquoi le monde est-il si mal arrangé? Je n'ai rien et elle est riche. Ce qui fait qu'il ne m'est pas permis de lui parler. Ce qui fait que je n'ose même pas publiquement la regarder. Si je lui parlais, elle ne m'écouterait pas ou bien elle se mettrait à rire. Si je la regardais, elle me tournerait le dos. À qui est-ce qu'elle écrit maintenant? Ce n'est pas à moi, c'est à un autre. Alors, la lampe à monture de cuivre se met à balancer devant lui. La table penche, elle se défait peu à peu. Elle devient une espèce de brouillard. C'est dans la tête que ça se passe. Tandis que lui-même branle sur ses jambes. Il est obligé lui-même de s'accrocher au contrevent avant d'être rejeté dans la nuit, où il fait deux pas en arrière, sous les étoiles qui regardent entre les noyers et le toit. De sorte qu'il va, tout chancelant, jusqu'à la porte de l'écurie. Dans l'air brouillé qui règne entre le plafond bas et le pavé, tout là-bas dans le fond, la lumière du falot fait une tache informe dont les bords vont en décroissant d'intensité, comme quand la lune est dans le brouillard. Il se laisse tomber sur la paille. On entend un bruit de papier froissé. C'est la brochure dans sa poche. Ça aussi, c'est faux. C'est pour vous tromper. C'est de l'invention. Ça n'existe pas. Il jette loin de lui la brochure. Le veau tend le cou par-dessus la planche. Il vient seulement de naître. Il a encore le poil mouillé. Il titube sur ses grosses jambes. Il avance vers vous son museau baveux et ses grands yeux ronds aux cils blancs, où s'amasse et bouge une espèce d'ombre trouble, comme quand de la vase est en suspension dans l'eau. Le garçon lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Le garçon s'est assis sur la paille. « Tu me connais ou quoi ? Je t'intéresse ? Tu es mal comme moi. Tu t'ennuies. Viens ici. » Il fait un mouvement avec le bras. La bête va à sa rencontre comme en signe d'amitié. Et il s'est mis à lui gratter le front entre les deux petites protubérances roses qui indique la place où les cornes vont pousser.